France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le code du travail. La stratégie du gouvernement, c'est d'éviter la renaissance d'un mouvement de contestation, analyse d'Anne-Laure Chouin. L'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques, il révèle un trou de 9 milliards d'euros dans le budget de cette année, près du double l'an prochain. Selon le ministre Bruno Le Maire, tous les secteurs de la dépense publique seront concernés par des mesures d'économie, précision avec Jean-Marc Chardon. La cyberattaque mondiale qui a démarré en Ukraine et en Russie touche des milliers d'ordinateurs, d'institutions, aussi d'entreprises dans le monde entier. On va faire le point avec Éric Chavroux. L'actualité à l'étranger, une situation qui se dégrade encore au Venezuela avec un hélicoptère de la police qui tire des grenades contre le siège de la Cour suprême qui ouvre aussi le feu contre le ministère de l'Intérieur. Le président Maduro est confronté depuis le 1er avril à une vague de manifestations pour exiger son départ et il accuse ses opposants de droite de vouloir le renverser. L'invité de la séquence interview, Ludovic Piétenu, reçoit Delphine Bateau en direct de l'Assemblée nationale dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesbert.
Vous avez étudié, Antoine, à l'ENS à Paris, à la London School of Economics à Londres, Polytechnique de Zurich. On va quand même tenter d'approcher l'excellence, voire d'y parvenir ensemble à partir de 12h55 avec nos invités, le réalisateur Antoine de Godemar et le philosophe Frédéric Worms qui est lui directeur adjoint de l'ENS, et Antoine de Godemar qui a réalisé une série documentaire dans ces trois écoles prestigieuses. On va voir ce qu'il en ressort. Le génie des lieux, c'est à partir de 12h55.
C'est donc parti pour la réforme du Code du travail. Le projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance vient d'être adopté par le Conseil des ministres. Étape suivante, vote au Parlement, ce sera autour du 20 juillet, puis les ordonnances qui pourraient entrer donc en application dès le mois suivant, vers la fin septembre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce texte précisément? La question est encore ouverte, même si les fondamentaux sont connus. Inversion de la hiérarchie des normes avec possibilité pour une entreprise de déroger à un accord de branche, fusion des instances représentatives du personnel, un plafonnement des indemnités de licenciement. On parle aussi beaucoup d'un recours à des contrats de travail nouveaux, dits contrats de chantier, qui sont plébiscités par le MEDEF. C'est un dispositif à mi-chemin entre le CDI et l'intérim, globalement. Donc cette réforme va plus loin que la loi El Khomri qui avait déclenché, on s'en souvient, l'an dernier, une grave crise sociale avec plusieurs mois de manifestations. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Mais cette fois-ci, la stratégie gouvernementale, c'est clairement d'éviter par tous les moyens la renaissance d'un mouvement de contestation.
Oui, même si rien n'est gagné à cette heure, avec un premier appel à la grève de la CGT pour le 12 septembre et une bronca qui monte chez les syndicats, appelée donc à la concertation. Le président de la CFE-CGC, pas particulièrement réputé pour être revendicatif, a fustigé ce matin le grand flou qui régnait autour des intentions du gouvernement concernant les modalités précises de cette loi et n'a pas exclu une mobilisation. On nous balade, a fait savoir François Omeril, qui, comme les autres, réclament au moins un texte pour pouvoir discuter. Jusqu'à ce matin, il n'y en avait pas. Alors, la ministre du Travail, qui va rendre publiques les grandes lignes de ces ordonnances cet après-midi seulement, jure que les discussions avec les syndicats ont déjà fait bouger les lignes, mais le texte précis et tous les diables qui risquent de se cacher dans les détails, on ne les connaîtra, eux, qu'à la fin de l'été, quand ils seront soumis aux députés et une fois cette concertation avec les partenaires sociaux terminée. Une concertation compromise ambitieuse au ministère du Travail, pensez donc 48 réunions prévues. Mais là encore, les syndicats protestent, il ne s'agit que de bilatérales et pour l'instant, aucune réunion multilatérale, c'est-à-dire en présence de tous les syndicats, n'est prévue. Or, ce devrait être le cas si le gouvernement n'avait rien à cacher. C'est ce que fait valoir notamment la CFDT. Pour l'instant, en tout cas, le gouvernement échappe à une mobilisation concertée et intersyndicale, faute d'éléments précis qui puissent la motiver. N'oublions pas que par ailleurs, il existe des limites institutionnelles à une entrée en vigueur dès la rentrée de ces ordonnances. D'abord, la loi Larcher prévoit qu'un document d'orientation doit être proposé aux partenaires sociaux. Pour l'instant, ces derniers n'ont rien reçu qui s'apparente vraiment à cela. Enfin, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais aussi la Commission nationale de la négociation collective et le Conseil supérieur de la prud'homie doivent être consultés.
Merci beaucoup. Anne Norchouin et Jean-Luc Mélenchon qui annoncent que la France insoumise va participer à cette journée d'action et de grève dont vous parliez, proposée par la CGT le 12 septembre prochain. Il faut résister, déclare-t-il, car le code du travail, ce n'est pas le code de la route. Fin de citation. L'été pourrait être aussi propice à l'annonce de plusieurs mesures d'économie budgétaire. En tout cas, la Cour des comptes va rendre public demain cet audit attendu des finances publiques qui va révéler un trou de 9 milliards d'euros dans le budget de cette année, mais près du double pour l'an prochain. C'est un rapport sur lequel le gouvernement donc compte s'appuyer pour prendre un certain nombre de mesures. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà fait savoir qu'il en recommandait la lecture de ce rapport et il évoquait en début de semaine un certain nombre de propositions qui vont concerner, disait-il, tous les secteurs de la dépense publique. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour.
Scénario assez classique pour tout gouvernement, hein, tout nouveau gouvernement. Les comptes du précédent sont assez souvent accusés d'insincérité. Mais comment allons-nous, allez-vous, allons-nous trouver, en tout cas le gouvernement, ces 9 milliards d'euros avant la fin de l'année?
Alors, c'est plus qu'une question, c'est une vaste interrogation. Pour le savoir, il faudrait quand même que ces comptes budgétaires soient actualisés, qu'ils soient disponibles, nommés et analysés, ce qui n'est pas encore le cas. Ce que l'on sait simplement, c'est que cela fait plusieurs mois que la question se pose de la sincérité des comptes publics pour 2017. La Cour des comptes elle-même avait pointé dans un précédent rapport les risques pour le gouvernement à venir de ne pouvoir tenir sa trajectoire financière pour l'année en cours et les suivantes, 2018, avec une projection deux fois plus importante pour 2018 donc, ce qui est quand même assez inquiétant. Alors, première question à se poser, pourquoi tout simplement en est-on arrivé là et est-ce qu'on y est vraiment? La Cour n'a cessé d'alerter le gouvernement précédent sur la progression des dépenses, toujours trop rapide, à plus de 1%. Un certain nombre de ces dépenses auraient été minorées, masquées par une présentation comptable, on va dire avantageuse, laissant traîner des reports de charges sur les prochains budgets, la Cour évoquant des accommodements critiquables. Cela, c'est donc à préciser, mais où donc sont les pistes? Où le gouvernement va-t-il pouvoir faire des économies? On en est réduit, effectivement, à faire simplement des projections. On pense à la santé, car c'est là que les gisements seraient les plus importants. Il faudrait plafonner davantage les dépenses sur l'assurance maladie, ce qui sera douloureux, forcément. Les collectivités locales aussi devraient serrer les vis, la vis plus encore, au moment où elles retrouvent des capacités d'autofinancement. Et puis se posera aussi, et fondamentalement, la question de la fiscalité. Difficile, en tout cas, d'imaginer une baisse d'impôts dans un avenir proche, dans ces conditions.
Jean-Marc Chardon, merci beaucoup. Réforme du droit du travail par ordonnance, apurement donc des comptes publics annoncés. Le chef de l'État reste fidèle à cette stratégie qu'on a appelée de blitzkrieg en matière économique et sociale. Christine Monclin.
Oui, mais au risque de braquer et à gauche et à droite, car les mesures d'économie qui seront annoncées prochainement devraient affecter aussi des promesses de campagne destinées à l'électorat libéral d'Emmanuel Macron, comme la réforme de l'impôt sur la fortune ou la transformation du CICE en allègement de charges pour les entreprises, des mesures coûteuses qui seraient reportées d'au moins un an, explique par exemple le journal de droite L'Opinion, qui anticipe une déception de ce côté-là. Contrairement à François Hollande en 2012, qui ne voulait pas effrayer les Français, Emmanuel Macron, lui, a choisi de dire, de souligner même la mauvaise santé financière du pays et ce faisant, bon, il en reporte la faute sur son prédécesseur, ce qui est classique, mais cela l'oblige aussi à agir et à agir vite, en effet, ce qui l'arrange et qui lui permet de passer en force avec ses fameuses ordonnances. Mais à guerre éclair, guerre et demie, Jean-Luc Mélenchon, qui a l'intention de tenir la corde de l'opposition, a prévenu, lui aussi en termes belliqueux, que son action politique serait menée, je le cite, depuis la tranchée de la France insoumise à l'Assemblée et dans la rue chaque fois que nécessaire. Le Front National, de son côté, lance un cercle front syndical contre la réforme du Code du travail et promet lui aussi d'en être l'opposant numéro un à l'Assemblée, mais aussi dans les entreprises.
Merci beaucoup Christine Monclin. On salue l'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée, la députée Nouvelle Gauche Delphine Batho. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous qualifieriez la politique conduite par le nouveau gouvernement?
De façon générale?
Oui, enfin tout ce qu'on vient de dire pour l'instant, les premières mesures annoncées, que ce soit cette loi travail ou les mesures annoncées concernant les équilibres budgétaires.
Sur la loi, sur les ordonnances, en fait, il y a d'abord un premier problème qui est un problème de méthode, parce que c'est un acte de défiance vis-à-vis du Parlement et de l'Assemblée nationale qui vient juste d'être élu et où le président de la République dispose d'une majorité confortable. Donc il n'y a pas de justification à cet acte de défiance vis-à-vis du Parlement. Ensuite, sur le fond, ça reste des dispositions qui sont inspirées par quelques grands groupes, des grandes entreprises, alors que l'économie du pays, ce sont les PME, ce sont les artisans, les commerçants, les établissements de taille intermédiaire. manière, et j'attire l'attention en particulier sur la position de la CGPME, qui, elle, est contre la suppression des accords de branche et la remise en cause des accords de branche. Donc, dans ce qui est annoncé, il y a beaucoup de choses inquiétantes. Je veux souligner aussi, par exemple, l'appréciation du périmètre des licenciements économiques pour les grandes entreprises multinationales qui seraient appréciées que selon leur chiffre d'affaires en France. Il y a beaucoup de régression dans ce qui est évoqué ce matin.
Donc, vous voterez contre la confiance à ce nouveau gouvernement ? Stéphane Le Foll,
moi, j'attends le discours. Oui. J'attends le discours du Premier ministre.
Ah bon, vous n'êtes pas encore sûr.
D'accord. Non, je suis sûre que je ne donnerai pas une confiance à l'aveugle. Donc, je ne voterai pas pour, compte tenu de cet acte de défiance. Mais ensuite, oui, je me déterminerai entre abstention et vote contre, en fonction de ce que dira le Premier ministre. Vous voyez, c'est une nouvelle. C'est pas les postures, c'est de juger sur pièce. Moi, je demande des preuves. Et pour l'instant, ce qui se prépare est inquiétant, et ce qui est annoncé aussi sur le plan budgétaire est inquiétant.
Delphine Bateau, merci beaucoup. On vous retrouve à la fin de cette édition donc pour la séquence interview et le dernier abécédaire de l'année. Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour.
Philosophe invité pour cette dernière partie de la Grande Table. Bon, si on prend ça sur un plan philosophique, est-ce qu'on est en révolution politique sur la méthode, la manière de faire, la démocratie, que sais-je ?
Bon, moi je suis très frappé par le terme que vous avez employé de manière récurrente, de blitzkrieg, c'est-à-dire de grande rapidité. Parfois on a besoin de trancher. Je ferai un parallèle avec les sujets qui étaient à l'actualité hier et auxquels j'étais un peu impliqué, c'est les décisions du Comité national d'éthique. On a beaucoup reproché au Comité d'éthique d'avoir pris du temps. Et pourtant, il est arrivé à un avis. Je crois que le temps qui a mené était très important et le temps qui va suivre aussi. Et le parallèle que je ferai, c'est que sur la loi travail, par exemple, il est important de prendre le temps de discuter. Et puis, même s'il faut trancher à un moment donné, il y a quand même des choses qui ont été annoncées dans la campagne. Ce qui m'importe beaucoup, c'est que le temps de la discussion ne s'arrête pas au temps de la loi, qu'il prévoit les concertations ultérieures. Ce qui peut un peu inquiéter, c'est non seulement la rapidité de la concertation avant, mais celle qui va être laissée rendue possible après. Est-ce qu'il y aura encore après des interlocuteurs ? Est-ce que les interlocuteurs seront pris au sérieux, les syndicats, les salariés eux-mêmes, les citoyens ?
Donc ça, c'est une inquiétude.
Ça me paraît fondamental. Donc cette dimension temporelle n'est pas secondaire. À un moment, sans doute, il faut faire avancer des choses. Je crois qu'il y a quand même eu des choses qui ont été annoncé, on ne peut pas être surpris, mais néanmoins, ce qui va être annoncé pour la suite et la manière dont ça a été discuté avant et maintenant va être déterminant. Donc je crois que la concertation ensuite sur tous les sujets de société, comme on dit, ou d'économie et les autres, ça va être fondamental. L'idée que ça pourrait être tranché définitivement me paraît en effet très inquiétante.
Frédéric Worms, merci beaucoup.
Merci
à vous. On se retrouve pour la dernière partie de la Grande Table. Encore un mot sur la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui est dans l'actualité ce matin, donc sur un autre front. Libération révèle en effet que la ministre aurait validé certaines dépenses relatives à l'organisation d'une soirée à Las Vegas où Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, avait rencontré des dirigeants des start-up françaises. Il y aurait eu contournement des règles de l'agence publique qui est chargée de faire la promotion de la France auprès des investisseurs étrangers. Madame Pénicaud aurait ensuite tenté d'étouffer l'affaire selon Libération. Il y a eu une erreur de procédure, c'est ce qu'elle reconnaissait ce matin sur RTL, avant d'affirmer qu'elle avait immédiatement déclenché un audit interne et externe.
Midi 44 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. La cyberattaque d'ampleur mondiale continue de se déployer. Elle vise depuis hier de grandes entreprises et des services publics dans plusieurs pays, en Russie, en Ukraine, mais aussi au Danemark, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège et aux Pays-Bas.
Et oui, après avoir obligé le géant pétrolier russe Rosneft, par exemple, à passer sur un serveur de secours et même la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl à revenir à des mesures manuelles du niveau de radioactivité, eh bien le logiciel rançonneur cause des pannes informatiques aussi chez le géant danois du transport maritime Maersk qui ne peut plus ce matin traiter ses commandes. Elle a coupé aussi le courant chez les propriétaires des biscuits Lu et Oreo et contraint certains salariés allemands de Nivea à cesser le travail. Bref, c'est une affaire qui touche beaucoup de pays. En France d'ailleurs, Saint-Gobain a fait état aussi d'une tentative de piratage informatique à grande échelle, indique toutefois que le problème est en cours de résolution ce matin. Logiciel de rançon donc qui réclame, rappelons-le, c'est l'origine évidemment de l'affaire, le plus souvent $300 pour débloquer ensuite ses ordinateurs. Éric Chavroux, bonjour.
Bonjour Antoine.
Première difficulté, évidemment, identifier qui sont ces pirates.
Qui seraient à l'œuvre, prenons le temps, restons très prudents. Hier soir, encore un très haut cyber-responsable européen confiait ne pas savoir. Une chose est sûre, vous l'avez dit, il s'agit d'un ransomware, un logiciel malveillant de rançon, arme préférée des cybercriminels. En 2014, moins de 10 plaintes avaient été déposées en France à ce sujet auprès de la gendarmerie. L'an dernier, on en comptait 500. Depuis hier, il n'y a eu aucune revendication politique sur des ordinateurs ou des comptes Twitter, par exemple. On pourrait donc privilégier la piste criminelle pour des virus historiquement développés et encouragés par des mafias d'Europe de l'Est. Les raisons de l'enquête ouverte par le parquet de Paris vont dans ce sens et ce sont des policiers spécialisés dans la cybercriminalité qui ont été saisis. Mais on l'a vu, l'Ukraine a d'abord et avant tout été touchée, y compris sa banque nationale et l'aéroport et le métro de Kiev. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a d'ailleurs qualifié de pire cyberattaque dans l'histoire du pays ce qui s'est passé. Les pirates n'auraient-ils donc pas été téléguidés par un État pour déstabiliser l'Ukraine? On pense bien sûr à la Russie, même si elle a également été touchée. Autre hypothèse, des mercenaires informatiques n'auraient-ils pas cherché à faire coup double, gagner l'argent des victimes, tout en se mettant au service d'un État? Enfin, les experts informatiques soulignent à quel point il est facile désormais pour des pirates de base de lancer des logiciels de rançon. Ces amateurs sans grande compétences baptisées Lamer peuvent en effet trouver facilement ces virus ou des extraits de leur code informatique sur le réseau anonyme du Darknet.
Je comprends bien, donc beaucoup de pistes restent possibles. Comment se protéger? Il y a des entreprises en particulier qui manifestement n'arrivent pas à parer ces attaques alors qu'elles se multiplient, Éric Chavreau.
C'est très compliqué parce que souvent, ces entreprises, y compris les grands groupes, ont longtemps relativisé les dangers et pris du retard sur ces questions, il faut le dire, complexes et souvent chères à traiter, défis renforcés par la multiplicité de sociétés de cybersécurité. Face à ces risques, l'État a tout de même beaucoup renforcé les moyens du référent en la matière, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle a publié dès hier un bulletin d'alerte détaillé, tout comme elle a par exemple publié un guide de bonnes pratiques en collaboration avec la CGPME. Et puis, face à des risques qui pourraient aussi être terroristes, l'ANSSI accompagne 200 opérateurs d'importance vitale dans leur sécurisation informatique, des aéroports, centrales nucléaires ou hôpitaux. Mais il faut savoir réagir vite quand les failles sont identifiées. Cette nuit, en l'occurrence, Microsoft a reconnu sa responsabilité via Windows avec à la clé un correctif. Et les portes d'entrée de ces infections sont multiples. Inculquer les bonnes pratiques informatiques à tous prend du temps, beaucoup de temps. Il suffit d'une mauvaise manipulation ou d'une clé USB infectée, d'un intérimaire ou d'un stagiaire mal informé au sein d'une entreprise pour tout ruiner.
Pas seulement les stagiaires. Merci beaucoup, Éric Chavreau.
Midi 48 sur France Culture, l'actualité à l'étranger maintenant avec une situation qui se dégrade encore au Venezuela.
Un hélicoptère de la police qui a tiré des grenades à Caracas contre le siège de la Cour suprême. Il a aussi ouvert le feu contre le ministère de l'Intérieur. Le président Maduro est confronté depuis le 1er avril maintenant à une vague de manifestations pour exiger son départ. Il déclare que cette attaque fait partie d'une campagne de la droite soutenue par les États-Unis et il dénonce même une attaque terroriste. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Comment faut faire la part entre la réalité de ce qui se passe et puis dans cette attaque, et puis l'exploitation politique que peut en faire le pouvoir?
Difficile d'en faire la part. Revenons d'abord sur les quelques éléments factuels dont nous disposons. Sur les sites de télévision locale, deux vidéos sont apparues. L'une d'un hélicoptère survolant la ville, avant que ne retentisse une explosion et des tirs nourris. Les sites publient aussi la photo de l'hélicoptère portant le sigle de la police, à bord duquel deux hommes, dont l'un, visage masqué, brandi d'une banderole, portant 350 Libertad, allusion à cet article de la Constitution qui autorise la déchéance des gouvernements ayant des pratiques antidémocratiques. L'autre vidéo, c'est celle d'un homme vêtu d'un uniforme militaire, entouré de quatre hommes masqués et armés. Il se présente comme un enquêteur de la police scientifique et lit un texte préparé où il déclare combattre la tyrannie, appelle à la démission du président Maduro et se dit à la tête d'un groupe de militaires, policiers et fonctionnaires hostiles à, je cite, « ce gouvernement criminel ». Il s'agirait d'un certain Oscar Pérez, un policier qui, selon le gouvernement, fut pilote de l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice. Son pédigré étonne le New York Times qui rapporte qu'il fut aussi acteur dans un film sorti il y a 2 ans, La mort en suspens, dont il est également producteur. Alors qu'il soutient, l'attaque en tout cas a échoué sans faire de victime. Le pilote et l'hélicoptère ont disparu. Un hélicoptère dérobé à la police qui a pu s'aventurer au-dessus de bâtiments très sensibles sans être abattu. Des proches de l'opposition estiment même que l'attaque pourrait avoir été orchestrée par le pouvoir afin de justifier la répression. Impossible à dire, en tout cas. Dans une adresse télévisée, le président Maduro a immédiatement dénoncé un acte terroriste, vous le disiez, placé les forces armées en alerte pour défendre l'ordre. Et comme pressentant cette attaque dès hier, eh bien, le président vénézuélien avait prévenu que si son gouvernement devait être renversé par la violence, ses partisans prendraient les armes.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup. 1h10 sur France Culture, l'invité de notre dernier abécédaire, Delphine Bateau, interrogée en direct de l'Assemblée par Ludovic Piétenu.
Oui, T comme transition, c'est l'abécédaire avec Delphine Bateau. C'est le grand sujet du moment, Delphine Bateau, aussi bien transition écologique que transition politique. Vous avez été ancienne ministre de l'écologie, vous avez été réélue le 18 juin députée des Deux-Sèvres. Vous faites donc partie désormais des 31 députés du groupe socialiste à l'Assemblée qui a choisi pour nom Nouvelle Gauche. La voilà peut-être, la première marque de la transition.
Oui, c'est...
On peut remarquer qu'il n'y a déjà plus le mot socialiste.
Oui, parce qu'en fait, on aurait pu choisir un autre nom qui était un nom à rallonge. Donc c'est un élément de simplicité, parce que sinon c'était socialiste, écologiste, républicain, démocrate, européen. Donc ça, c'est pour le contenu. Et puis c'est aussi parce qu'on a envie de se tourner vers l'avenir. On a envie de reconstruire.
Socialiste, c'est un mot dont il faut se débarrasser pour mieux garder le mot gauche, au sens de rassemblons les forces de gauche.
Non, moi j'assume ce que je suis. Je revendique cette histoire, mais il faut faire du neuf. Voilà, il y a la nécessité.
Sur le baril de lessive, quoi. Faut écrire
non. Il y a la nécessité, je veux dire, lucidement. J'avais déjà écrit là-dessus de tirer les leçons du quinquennat qui s'est achevé, des raisons de cette bérésina, et de porter des idées nouvelles. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur l'écologie, sur le numérique, sur la question républicaine, laïque, sur beaucoup d'enjeux. Il faut se tourner vers l'avenir.
Ce qui a été porté par Benoît Hamon pendant sa campagne, notamment ces questions, quelques-unes de ces questions que vous avez listées. Il lance son rassemblement pelouse de Reuilly ce samedi. Vous en serez ?
Je serai dans les Deux-Sèvres.
Parce que vous ne...
Non, parce que je fais la fête, j'organise.
Vous soutenez son initiative.
J'organise dimanche dans les Deux-Sèvres ce que j'ai appelé la miel partie, voilà, pour fêter avec tous les volontaires, tous les citoyens qui ont fait ma campagne, dont la majorité d'ailleurs ne sont pas membres d'un parti politique, ni du PS, ni d'un autre. Cette bataille collective qui a été victorieuse.
Vous vous sentez un peu rescapé? Et d'autant plus fière, peut-être, de faire partie des 31 députés socialistes.
Non, je me sens pas rescapée, je me sens lanceuse d'avenir. Voilà, et forte d'une légitimité populaire, à égalité avec tous les autres députés. Mais c'est vrai que ça a été une bataille rude, face à une candidature en marche, de gagner ces élections législatives. Et c'est une victoire du travail accompli, c'est aussi une victoire de l'unité du rassemblement, que j'ai réussi à fédérer dans ma circonscription, des gens qui avaient voté pour Benoît Hamon, mais aussi pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon, et même qui étaient favorables à la candidature d'Alain Juppé aux primaires de la droite. En fait, il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans ce rassemblement, sans cette unité.
Manuel Valls, lui, qui devient un député apparenté La République En Marche, c'est bien ça? Ça permet d'avancer vis-à-vis de l'opinion dans cet effort de clarification?
Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est une bonne nouvelle. Quand un ancien Premier ministre socialiste quitte sa famille politique, même si j'ai des divergences très importantes avec Manuel Valls. D'abord, j'ai du respect. Ensuite, je considère qu'il n'est pas le seul responsable d'un certain nombre d'erreurs, comme le 49-3, la déchéance de nationalité, bien d'autres. Et ensuite, sur le fond, je pense qu'il incarne des combats pour la République, pour la laïcité, sur lesquels nous aurons besoin de nous retrouver.
Sur l'écologie, la transition écologique, c'est le mot de notre abécédaire. Transition, vous avez été Delphine Bateau, je l'ai dit.
C'est un mot qui fait problème.
Ministre de l'écologie. Écologie.
Non, transition.
Transition.
Oui, parce qu'il ne dit rien du but à atteindre. Et
c'est
donc
juste
c'est
un
devenu.
État.
Non, c'est devenu.
Comme
oui,
un
c'est
état gazeux.
Un état intermédiaire qui comporte l'idée de progressivité. Or, sur l'écologie, aujourd'hui, il y a urgence. On n'a plus le temps. Le compte à rebours est engagé pour la planète. En fait, si on veut, par exemple, limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés, ça se joue dans les 5 ans qui viennent, disent les scientifiques.
Oui, pas 2050.
Pas 2050, pas 2030. Ça se joue vite. Et donc, il commence à y avoir, à mes yeux, un problème avec ce mot de transition que j'ai moi-même beaucoup utilisé, qui fait un peu comme si on avait le temps. Et qui ne dit rien de l'objectif à atteindre. Par exemple, l'objectif prioritaire à atteindre, c'est la sortie des énergies fossiles. C'est de laisser les réserves de pétrole dans le sol.
Donc le ministère de Nicolas Hulot devrait se renommer ministère
de l'urgence écologique et solidaire.
Il a gagné un combat quand même, on l'a vu cette semaine sur les pesticides, et il a eu l'appui d'Édouard Philippe. Vous faites confiance à Nicolas Hulot et à Édouard Philippe ? Ou à Nicolas Hulot ou à Édouard Philippe ?
Je fais confiance à la sincérité et à l'engagement de Nicolas Hulot, qui n'est pas là pour avoir un poste au pouvoir. Il avait déjà refusé plusieurs fois d'être ministre, donc il est là pour agir, pour servir une cause.
Et
il est là, pas juste pour empêcher des régressions, comme ça s'est passé pour les abeilles et sur ce problème des néonicotinoïdes. Moi, je suis à l'origine de la loi qui interdit ces substances qui tuent les abeilles. Il n'est pas là juste pour empêcher des régressions. Il est là pour accomplir des progrès, pour être dans une marche en avant, si vous me permettez l'expression.
Et il s'en ira.
Et il est en marche.
Non, moi, je ne fais pas de prévision de départ. Je sais qu'il est déterminé à agir.
Sur cette transition politique, un dernier mot peut-être pour conclure, Antoine, sur cette recomposition politique à l'œuvre. Là, on est quand même dans cet état gazeux. Comment vous définissez le macronisme ? Parce que vous avez vu hier 313 députés,
la question,
La République
un mot,
en Marche. Oui, elle est large.
Attention, on a des philosophes dans le studio.
313 députés, La République en Marche est apparentée, ce sont des CSP++, issus des grandes écoles, du monde de l'entreprise. Comment vous avez observé ça hier lors de la première séance ?
D'abord, un gros regret, puisqu'il faut être bref. C'est que visiblement, la transition politique, c'est pas la féminisation. Et moi, j'en ai ras-le-bol dans des campagnes électorales, on nous annonce une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, c'est jamais le tour des femmes pour être chef.
Et aujourd'hui, le lot de consolation annoncé par En Marche, c'est la parité sur 6 commissions.
Mais c'était déjà le cas. Regardez qui présidait les commissions avant. Il y avait déjà beaucoup de femmes.
Voilà. Quand les socialistes étaient majoritaires. Merci beaucoup, Delphine Bateau. Merci, Antoine.
Merci, Ludovic Piétenu. Vous étiez avec Arthur Gerbeau. Donc, à l'Assemblée nationale, un temps généralement nuageux, parfois pluvieux, les températures en baisse sensible, 17 à 31 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et à 18h, c'est Arash Legel.